L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion en direct à midi et rediffusée à 18h. Le jeudi, c'est souvent agriculture, au moins une fois par mois en tout cas, avec notre partenaire, le réseau CIVAM du Finistère, réseau de la paysannerie et de la ruralité. Et aujourd'hui, on fait une pause. On le sait, l'agriculture, c'est un métier très prenant, fait de longues journées et de très courtes vacances. Et c'est encore plus vrai pour l'élevage, puisque les animaux n'attendent pas, il faut être présent tout le temps, c'est une question de bien-être animal de base. Et si on pense à un élevage particulièrement contraignant, c'est bien l'élevage laitier, avec traditionnellement 2 traites par jour pour les vaches. Eh bien non. Avec nos invités du jour, on va constater qu'il peut y avoir d'autres façons de travailler, car on le sait, l'agriculture, c'est aussi un secteur en pleine mutation. Les professionnels changent leurs méthodes aussi. Avec nous aujourd'hui, il y a Sophie Pathé, la coordinatrice du CIVAM du Finistère. Bonjour.
Bonjour Véronique.
Il y a Romain Marek, éleveur laitier à Plouédère. Bonjour.
Bonjour Véronique.
Et même ses stagiaires, vous pouvez vous présenter si vous voulez, non ?
Eh bien, Thomas, bonjour.
Alan, bonjour.
Merci d'être là tous. Alors Romain, on va commencer par vous, puisque vous êtes le clou du spectacle aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer votre parcours d'éleveur, d'agriculteur ?
Eh bien, du coup, j'ai suivi un parcours plutôt classique. J'ai fait des études agricoles à l'IREO de Lesnevin, BEP et Bac Pro. Et suite à ça, après, j'ai quitté le monde agricole, j'ai fait de l'intérim pour travailler un peu, voir autre chose. Ça m'a permis de travailler avec des gens en équipe, et quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Et suite à ça, après, j'étais salarié avec mon père pendant 3 ans.
Parce que vous venez d'une famille d'agriculteurs.
Oui, mon père, c'est ça, est agriculteur. Il a fait 40 ans dans ce métier-là. Donc j'ai repris la ferme familiale. La question s'est posée à la fin de ma 3e année où mon père allait partir en retraite. Et donc suite à ça, après, j'ai lancé les démarches pour m'installer. Voilà, donc j'ai repris l'exploitation familiale à la suite de mon père. Voilà.
Telle quelle, où elle s'est agrandie, elle a rapetissé
Non, elle n'a pas changé, elle est restée à taille humaine, il y a les surfaces qui ont un petit peu augmenté, et puis après tout le modèle de fonctionnement en global de l'exploitation qui a changé, quoi, parce que j'ai mis en place du coup mes façons de faire.
Ce que vous allez nous raconter, juste pour décrire la ferme, donc vous dites taille humaine, c'est quoi, ça fait combien de bêtes, quelle surface, etc.
Alors bon, taille humaine c'est assez, voilà, bon, il y a moi sur l'exploitation avec l'aide familiale de mon père. L'exploitation fait 100 hectares, essentiellement composé d'herbes. Et il y a 80 vaches laitières à traire.
Ouais, donc pour le troupeau, c'est une taille moyenne. Pour la surface, je ne m'en rends pas trop compte. C'est moyen aussi dans le Finistère
C'est quand même assez élevé, 100 hectares.
Et ouais. C'est important. On va voir pour la suite, sans doute. Ça compte pas mal. Sophie, le CIVAM a suivi quand même Romain depuis le début, son histoire ou pas ?
Non, c'était plutôt une rencontre en début d'année. Chaque année, on suit en fait la saison de pâturage chez des éleveurs ou des éleveuses qui ont mis en place des systèmes herbagers pâturants, économes et autonomes. Et donc cette année, on m'avait indiqué que Romain avait un parcours très intéressant. Et donc on l'a suivi. Je l'ai suivi toute cette année, tous les mois en fait de l'année.
Ah oui. Avec des articles dans Paysans Bretons.
Voilà, ouais, c'est ça. C'est voilà. Des publications qu'on fait avec tous les CIVAM de Bretagne. Une fois par mois.
Alors Romain Marek, vous allez nous expliquer ce fameux... Vous étiez d'accord de reprendre l'élevage laitier, mais vous vous êtes dit, bon, peut-être pas avec la même vie, c'est ça que votre père.
Ouais. Voilà. Parce que moi, en soi, je voulais garder mon autonomie, pouvoir pratiquer des loisirs ou même ne serait-ce que partir en vacances ou voir mes amis. C'est vrai que l'astreinte en élevage laitier est relativement importante, c'est 7 jours sur 7. 2 fois par jour, du coup, la traite.
C'est un élevage au fait conventionnel, bio,
en agriculture biologique, là, depuis cette année.
Ah oui, parce voilà. Qu'au départ, c'était conventionnel. Quoi.
Voilà, ouais. C'est ça, exactement. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est un travail qui prend beaucoup de temps. Et moi, je voulais, de par mes projets, pouvoir consacrer du temps pour moi et pour ma future vie de famille. Donc, j'ai essayé d'aménager mon travail pour pouvoir réaliser cet objectif-là. Quoi.
Voilà, alors l'objectif, là, c'est vraiment ce que je disais en introduction, là, pause dans la traite hivernale, donc ça va être la première fois que...
Exactement.
Donc, expliquez-nous déjà au départ quelles sont les conditions, enfin qu'est-ce qu'il fallait pour arrêter de traire ses vaches, quoi.
Eh ben, tout simplement, comment j'ai mis 4 ans à pouvoir réaliser cet objectif-là. Donc, j'ai pas utilisé d'hormones ou rien du tout. J'ai cyclé mes vaches par rapport aux chaleurs naturelles et à l'aide de plantes également aussi pour pouvoir grouper les naissances sur une période donnée.
Pourquoi ? Parce que naturellement, enfin, les vaches que vous aviez, alors c'est quoi ? C'est des Holstein, des Montbéliard, c'est ça ?
Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Holstein, Montbéliard, des Jerseyaises et des croisées.
Et c'est important qu'il y ait un croisement ?
Le croisement, en fait, ouais, ça permet de bénéficier en fait de la qualité de deux races, par exemple, et la Montbéliard qui est plus typée viande et la Primochten qui est plus typée lait. Du coup, le petit veau qui va naître en croisant va réunir ces deux formats-là, quoi.
Ouais. Si jamais c'est un veau, donc vous l'envoyez à l'abattage, donc du coup c'est meilleur, c'est ça. Ça vous rapporte un peu plus aussi, c'est ça.
Ouais.
Si
la, la valorisation, ouais. Si c'est un mâle, oui, c'est mieux vendu. Et puis si c'est une femelle, du coup elle répond aux critères que je choisis.
Ouais, elle produit suffisamment de lait, quoi.
C'est ça, exactement. C'est ça. Voilà.
Mais elles ont un cycle. C'est quoi le cycle naturel de ces vaches qui sont pas vraiment naturelles ? Enfin, c'est des vaches d'élevage.
Alors donc, du coup, les vaches, elles ont leur chaleur tous les 3 semaines. Voilà, elles sont cyclées comme ça. Quand j'ai repris la ferme, les veillages étaient étalés sur toute l'année, donc il y avait des naissances toute l'année. Et donc moi, j'ai fait en sorte du coup de décaler mes vaches pour pouvoir avoir mes naissances sur la période de février à avril.
Alors, donc, parce que le lait, il est là quand, n'est-ce pas, quand il y a un petit veillage, voilà, c'est ça. Et ça dure combien de temps, enfin
Du coup, la gestation d'une vache, c'est 9 mois. Mm-hmm. Et du coup, elle produit du lait pendant 7 mois et demi, parce que pendant la phase où elle a eu son petit veau, où elle produit du lait, du coup, elle revient en chaleur. Et donc, à ce moment-là, c'est soit une insémination ou un taureau qui intervient. Et une fois que la vache est fécondée, du coup, elle reste au repos pendant 2 mois, à la fin de gestation.
Et après, ça repart.
Et après, ça repart. Donc, du coup, moi, mon principe, c'était de caler tout le monde en même temps, sur la même période, pour que tous les bébés naissent sur la période choisie. Et ça correspond en corrélation avec la pousse de l'herbe.
Et d'allonger la période de pause aussi, de repos.
C'est ça.
Ouais. Ouais. Donc, en fait, elles arrêtent de produire du lait,
oui.
Quand à quand, alors ?
Alors, du coup, le tarissement, on appelle ça le tarissement, donc quand on arrête de traire les vaches. Le tarissement, a démarré à partir du 10 novembre, et j'ai fait en 2 fois. Donc, du coup, il y a eu un premier lot qui a été tari le 10 novembre, et l'autre qui a été tari le 5 décembre.
Et ça veut dire qu'on se met à traire, je ne sais pas, juste une fois tous les 2 jours, et puis tous les 3 jours, comment on fait ?
Alors, du coup, oui, pour ralentir la production de lait des vaches, je suis passé en monotraite pendant 1 mois et demi.
Donc, une fois par jour ?
Une fois par jour, le matin. Et du coup, ça a permis de ralentir le rythme de production de lait.
Et sans qu'elle souffre.
Exactement. Mmh. Parce que vu que de toute façon, comme les jours raccourcissent et que la production d'herbe aussi en corrélation était minime, du coup, ça a fait baisser naturellement en fait, la production de lait. Et donc, ça m'a permis de pouvoir tarir mes vaches à la période de... choisi, quoi.
Et donc, ouais. Vous avez fermé votre salle de traite.
Exactement, j'ai fermé la salle de traite du coup le 6 décembre, premier jour où je n'ai pas trait de vache le matin ni le soir.
Ah.
Génial.
Ça fait rêver.
C'est trop bien.
Mais bon, y a comme vous l'avez dit, déjà vous avez mis 4 ans à préparer tout ça.
C'est ça.
Alors pourquoi, enfin donc c'est pas seulement pour cycler les vaches, vous avez parlé d'herbe, alors il faut que vous nous expliquiez votre système. Donc le fait que vous ayez 100 hectares, c'est important, enfin, j'imagine.
Oui,
donc,
ouais, oui. Du coup les 100 hectares me permettent de faire correspondre la quantité d'herbe aux besoins de mes vaches sur toute l'année. Les excédents sont fauchés et récoltés en foin ou en enrubanné. Donc, l'enrubanné, c'est la botte qui est plastifiée et ça fait une boîte de conserve, en fait.
Le round ball.
Voilà, c'est ça. Et donc, cette partie stockée-là permet de donner ça pendant l'hiver, pendant que l'herbe qui est à l'extérieur sur les champs n'est plus en quantité suffisante. Et autrement, au printemps, en fait, les vaches suivent le rythme des saisons. Donc, c'est pour ça que c'est un travail qui est saisonnalisé, avec les périodes de naissance qui sont en corrélation avec la pousse de l'herbe au printemps. Et donc ça permet aux vaches du coup, de trouver ce qu'il faut, les besoins qu'elles ont pour produire du lait, pour leurs besoins morphologiques, pour être en bonne santé. Et donc du coup, ça permet de faire corréler les vaches avec la pousse de l'herbe, donc printemps avec le pic de production de lait et également de production d'herbe. Ensuite, ça se lisse pendant l'été. Et puis, arrivé quand les jours raccourcissent vers l'automne-hiver, du coup, la production d'herbe diminue et la production des vaches aussi diminue. Jusqu'à, après, mettre au repos les vaches et également les terres qui sont autour de la ferme au repos.
Parce que l'hiver, donc, elles sont à l'étable, en fait, c'est ça?
Non. Pendant l'hiver, ce que je fais, en fait, sur les sites qui sont à l'extérieur de la ferme, qui servent d'habitude pour la fauche, pour faire les stocks pour l'hiver, comme je le disais juste avant. Les vaches, du coup, je fais un stock sur pied, donc je laisse l'herbe pousser pendant août-septembre, jusqu'à la période de décembre, en fait. Et après, je mets les vaches à pâturer cette herbe-là que j'ai laissée pousser. Donc, elles bénéficient de cette herbe-là qui a perdu un peu en valeur alimentaire et ça correspond très bien à leurs besoins où il ne faut pas qu'elles aient une alimentation trop...
Ouais, parce qu'elles n'attendent pas de veau, donc voilà, c'est pas la peine de les gaver.
Voilà, c'est ça, comme elles attendent leur petit veau, voilà, il ne faut pas qu'elles soient non plus obèses, on peut dire ça comme ça. Et en complément, elles ont du foin aussi. Voilà. Et donc, du coup, c'est ça leur alimentation, herbe pâturée et foin pendant la période d'hiver. Et ensuite, 3 semaines avant les naissances, je les ramène à la ferme. Et du coup, là, elles sont en bâtiment, au chaud, sur la paille. Et là où elles ont également du foin. Et comme ça, je les ai sous la main, sous les yeux, pour surveiller.
Qu'il y aurait des prématurés.
Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Voilà,
ouais. Parce qu'en plus, on dit que, enfin, je sais pas, les Holstein, c'est pas les plus faciles pour ce qui est du vélage, non? C'est ça.
Après,
c'est pour ça que vous avez voulu mixer aussi les.
Oui, et puis après, les naissances généralement se passent bien. J'interviens quasiment jamais, à part bien sûr, il y a quelques cas, voilà, ça arrive, mais c'est la nature, c'est comme ça. Mais globalement, je laisse faire les vaches, et parce qu'autrement, les vaches s'habituent à si l'éleveur intervient tout le temps autour. Du coup, après, elles attendent que l'éleveur soit là auprès d'elles pour pouvoir l'aider à sortir le veau, et c'est pas le but, quoi.
Ah oui.
Du coup, on devient aussi un peu esclave. Chaque naissance, il faut être là. Et...
Ah oui. Voilà. Alors que si on les laisse autonomes au
voilà,
vélage,
c'est ça,
elles sauront faire.
Et voilà, exactement.
Et donc, l'enjeu pour vous, il est bien sûr économique, c'est-à-dire que cette pâture, l'idée, c'était de ne pas avoir trop de dépenses,
c'est
puisque
ça.
Forcément, vous produisez moins, j'imagine, puisqu'elles ne veulent pas l'hiver.
Oui, donc du coup, j'ai divisé par 2 ma production de lait sur l'année, mais j'ai divisé par 3 mes charges.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Donc, du coup, les charges sont beaucoup moins importantes, parce que je n'achète plus de soja, je suis entièrement autonome. Tout ce qui est produit sur la ferme est consommé par les vaches. Du coup, j'ai très peu de culture aussi. Je dois avoir quelques hectares juste de colza, des choses comme ça, et de betteraves, mais c'est pour les vaches, quoi. Et après, tout le reste, c'est de l'herbe. Donc, c'est vrai qu'après, j'ai eu des dépenses importantes le temps de mettre tout le système en place, en fait. Donc,
ah oui, c'était quoi, par exemple?
Les achats de semences, la préparation du sol pour semer mes pâtures, en fait.
Voilà, parce qu'en fait, des pâtures, il ne faut pas croire, mais des pâtures, c'est quand même cultivé quelque part. Enfin, c'est ça.
Oui, la base, oui, c'est des semences achetées qui sont semées après sur le sol, quoi.
Pour qu'il y ait les herbes qu'il faut. Enfin, c'est ça, il faut des variétés d'herbes. Qu'est-ce qu'il faut exactement?
Voilà, donc moi, je choisis des variétés d'herbes mélangées, des multi-espèces, en fait, pour avoir un maximum de variétés de plantes, pour que les vaches puissent trouver ce qu'il faut quand elles consomment l'herbe. Et en même temps, l'intérêt aussi agronomique, du coup, le système racinaire avec des espèces variées permettent d'explorer différents horizons du sol. Voilà. Donc, du coup, ça améliore aussi l'infiltration de l'eau quand il pleut. Et ça oxygène beaucoup mieux le sol aussi. Donc le sol travaille beaucoup mieux.
Et puis, comme elles sont auprès toute l'année, il y a un système pour qu'elles boivent aussi. Enfin, vous avez fait d'autres travaux aussi.
C'est ça. Donc en fait, je suis parti de zéro. Donc il y avait déjà quelques pâtures autour de la ferme. Mais j'ai mis en place avec un organisme indépendant qui s'appelle Pâture Sens, pour les citer. Et du coup, on a fait ensemble une cartographie de la ferme, des pâtures qu'il y avait autour. Et on a divisé les parcelles par rapport au nombre de vaches. Et l'objectif, c'était que, du coup, les vaches aient de l'herbe fraîche tous les jours. Donc, c'est des paddocks de 24 heures de consommation d'herbe.
Donc, un paddock, c'est quoi? C'est un carré?
Un paddock, ouais, c'est ça. C'est un carré. Et avec l'aménagement qui va en fonction, donc du coup, avec les abreuvoirs qui sont en plein milieu des parcelles aussi. Parce que c'est comme nous, quand on mange, on a bien à avoir un verre d'eau à proximité pour boire. Bah, les vaches, c'est pareil, moins elles font de distance pour aller boire de l'eau, mieux c'est.
Ouais, vaut mieux pas qu'elles aillent dans la rivière, en plus, si jamais vous avez des rivières.
Non, autour de la ferme, il n'y a pas de rivière. Non, c'est le réseau d'eau de la ferme.
Je rappelle que vous êtes à Plouéderne.
À Plouéderne, c'est ça. Et donc, voilà. Donc, il y a eu la création de chemins, aussi l'empierrement de chemins pour faciliter l'accès aux pâtures. Pour éviter qu'il y ait trop de boue aussi, et puis que les vaches aillent rapidement en pâture et rentrer rapidement à la ferme aussi pour les horaires de traite.
C'est quand même vous qui les conduisez ou elles se déplacent toutes seules?
J'ai installé j'ai un lot de parcelles qui n'est pas traversé par la route. Et donc, j'utilise une porte automatique. Donc, je programme l'horaire d'ouverture de la porte et la porte s'ouvre et les vaches, elles sortent. Il y a des moments où elles comprennent pas que la porte est ouverte et donc du coup je suis obligé d'aller les chercher, mais quand la météo est pas trop clémente, généralement elles se font pas trop prier pour rentrer. Et autrement je vais les chercher et je les amène, c'est moi qui les amène au champ pour refermer le fil derrière elles. Ouais.
Et sinon, pour que la pâture soit bien entretenue, enfin, il faut pas qu'elle reste trop longtemps, c'est ça?
C'est ça. Voilà.
Combien de temps maximum?
Du coup, elle reste 24 heures par pâture, par paddock, et donc du coup, elle tourne comme ça sur 39 paddocks, 39 divisions, quoi. Et ces 39 divisions là correspondent à 39 jours en fait de temps de retour. Lorsqu'elles ont commencé à pâturer le premier paddock, quand elles reviennent, il s'est passé 39 jours. Et après, selon le climat, pendant l'été, quand l'herbe pousse moins, du coup, ce que je fais, c'est que je les garde un peu en bâtiment pour complémenter l'herbe qui n'est plus en stock sur la pâture pour répondre à leurs besoins.
Ouais. Du coup, si ça manque de protéines, vous leur donnez les protéines?
Voilà,
plus,
c'est ça. Ouais. Elles restent pendant une heure ou deux consommées sur la ferme et puis après, elles repartent au champ. Quoi. Voilà. Mm-hmm. Et elles consomment 16 kilos d'herbe de matière par jour, par vache.
Et sinon, vous avez même des excédents, peut-être, parfois, certaines années. Enfin, là, c'est peut-être un peu tôt.
Oui, mais après, la gestion par paddock, comme ça, permet aussi de mettre en place une planification. Donc, du coup, cette planification-là, elle s'effectue à l'aide d'un herbomètre. Donc, je fais le tour de mes champs une à deux fois par semaine, selon la pousse, pour quantifier les quantités d'herbes disponibles pour les vaches.
Et comment ça marche, ça, un herbomètre?
Un herbomètre, c'est simple, c'est un plateau et c'est électronique. Donc, du coup, je pose le plateau sur l'herbe. Donc, par rapport à la densité d'herbe, le plateau va s'arrêter à un moment. Et ça va me donner une valeur.
Le nombre de brins d'herbe au mètre carré, enfin au centimètre carré?
Non, c'est en quantité de matière sèche d'herbe disponible par hectare. Mon objectif, c'est que les vaches rentrent à 3000 kg de matière sèche par hectare et qu'elles ressortent à 1500 kg de matière sèche par hectare. Voilà, c'est ça l'idée. Et ça me permet de faire une planification et ensuite, je enregistre ces données-là sur l'ordinateur et ça me donne un histogramme, en fait, et les parcelles qui sont en excès d'herbe, du coup, je les vois, et celles qui sont aussi en manque d'herbe, je les vois aussi. Donc, ça me permet en fait d'ajuster ma stratégie. Donc, soit je fauche pour récolter l'herbe si jamais je manque de stock, ou alors j'augmente mon nombre d'animaux sur la ferme pour pouvoir consommer l'herbe disponible. Quoi.
Comment vous pouvez augmenter le nombre d'animaux sur la ferme?
En rajoutant les génisses et les autres catégories d'âge, en fait, en plus des vaches.
Vous n'allez pas chercher celle de vos voisins?
Non, non.
Mais par contre, vous avez utilisé les terres de vos voisins, je crois.
Oui, j'ai fait des échanges à l'amiable avec mes voisins, et ce qui est chouette, et ça m'a permis de pouvoir augmenter la surface accessible autour de la ferme. Parce qu'au départ, quand je me suis installé, je suis parti de 18 hectares, et là, aujourd'hui, on est à 31.
Oui. Parce que voilà, votre système ne fonctionne que sous certaines conditions. Les conditions, c'est quand même d'avoir une surface minimale.
C'est ça, autour de la ferme.
Et autour, quoi.
Accessible aux vaches à pied.
Ouais, vous ne pourriez pas avoir des champs un peu disséminés. Enfin, ça ne serait pas possible, quoi, si les champs étaient trop loin, quoi, les uns les autres.
Après, ce serait une autre stratégie. Ce serait d'avoir une salle de traite mobile et de déplacer la salle de traite et d'amener les vaches sur un autre site. Enfin, il y a plein de manières en cherchant bien. Mais oui, l'idéal, c'est quand même d'avoir une accessibilité autour du bâtiment. C'est pour ça que tous les agriculteurs ne sont pas en capacité de pouvoir mettre en place ce système-là, parce que tout le monde n'a pas la capacité d'avoir des parcelles regroupées autour de la ferme.
Et puis après, il y a la nature du sol, peut-être, qui est importante,
Dans la mise en place du projet, on a vu la division des parcelles par rapport au nombre de vaches et puis les quantités d'herbe qu'il fallait pour qu'elles consomment cette herbe-là. Mais il y a aussi tout le facteur climatique, donc dans la zone où on se trouve, le type de sol et l'exposition également par rapport à si on est exposé au sud ou au nord, forcément ça va influer sur quand est-ce qu'on va mettre les vaches sur les pâtures par rapport à la portance du sol.
Il faut qu'il soit plutôt argileux, pas trop, enfin c'est quoi?
Là, sur la ferme, c'est limoneux argileux, donc du coup c'est des parcelles qui sèchent bien, qui ressuient bien, donc,
impeccable.
J'ai pas à me plaindre, je suis plutôt bien loti. Et c'est des sols profonds, donc ça veut dire aussi que le système racinaire des plantes est en capacité de descendre profondément, chercher les nutriments pour pouvoir qu'elles puissent s'épanouir et pousser, quoi.
Et donc, pour l'instant, économiquement, vous en sortez tout à fait.
C'est ça. En fait, là, je suis en train de carrer mon système. Comme je disais, j'ai fait quand même pas mal de dépenses pour pouvoir mettre en place tout ça. Mais il ne faut pas oublier aussi que j'ai les charges d'installation, parce que ça fait 6 ans du coup, que j'ai repris la ferme là, aujourd'hui. Il y a les charges que je dois à la banque, forcément. Donc, la rentabilité va venir doucement, en fait, au fur et à mesure aussi, je vais rembourser mes emprunts, vu que mes charges sont ultra diminuées, je peux encore réduire.
C'est pour ça que vous êtes passé en bio aussi, peut-être, non, pour avoir
non, après, non, au-delà, le choix du bio, c'était vraiment une philosophie personnelle de base. Et puis après, oui, il y a le prix qui est rémunérateur derrière, mais de base, c'était vraiment ma philosophie de vouloir passer en bio. Et voilà, c'était. Ouais.
Vous ne transformez pas votre lait
Pas encore. Ouais.
Mais vous y songez?
J'y songe, ouais, de transformer le lait en produit fromager. Et je fais déjà un petit peu de vente directe, donc du lait en cru, en direct à la ferme pendant les horaires de traite. Et également aussi de la vente de viande de bœuf et de veau que je fais occasionnellement sur l'année. Du coup, c'est les clients, c'est mon réseau familial et puis aux alentours, quoi.
Et Sophie, alors, ce suivi, après ce suivi de cette expérience, retour d'expérience, qu'en pense le CIVAM déjà?
Après, c'est vrai que ça correspond exactement en fait, à la philosophie aussi qu'on veut développer au sein du CIVAM, qui est de cette recherche d'économie et d'autonomie sur les fermes. Je pense que c'est un peu là-dessus que se base aussi le travail du CIVAM et le travail en collectif, c'est-à-dire que dans les différents choix économiques des fermes, de chercher à diminuer les coûts de production, et puis que ça soit par comme tu l'as dit, Romain, par les différentes charges qui sont liées aux aliments, aux engrais, au matériel, etc., mais aussi de pouvoir s'appuyer sur les fonctionnements naturels aussi des écosystèmes et des milieux. Donc c'est vrai que faire pousser de l'herbe, une fois qu'on l'a implantée, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a effectivement des amendements organiques à apporter tous les ans, parce qu'il y a quand même tout ce que mangent les animaux. Donc, il faut bien quand même avoir une restitution. Mais n'empêche que de faire aussi en sorte que ce soit les animaux eux-mêmes qui se nourrissent, qui trouvent leur nourriture par eux-mêmes, c'est aussi une façon aussi de rechercher des économies et d'avoir des espèces qui sont mieux adaptées aussi. Tous les animaux peuvent manger de l'herbe, ça, y a pas de problème. Il y en a certains, il faut réapprendre. C'est pour ça aussi qu'on se base beaucoup sur l'éducation des jeunes animaux. Il y a tout un travail très précis qui est fait sur les petites génisses, hein, entre autres, Romain. Toi,
Ah oui, il faut leur apprendre à manger.
C'est
alors
ça.
Bon. Ouais, pourquoi elles mangent n'importe quoi.
Non, parce qu'en fait, les petits veaux sont élevés généralement avec les mamans. Donc, du coup, copient par imitation ce que fait leur mère. Donc, naturellement, le brouter de l'herbe, ça vient tout seul. Et en système laitier, en fait, les veaux sont souvent séparés des mères, en fait, parce que les mères, de par leur génétique, produisent beaucoup de lait. Et la mamelle est ultra chargée, en fait, et le petit veau, à lui tout seul, ne peut pas consommer tout ce lait. Donc, on est obligé d'aider la vache à vider son lait parce que ça lui fait mal. Et donc, le petit veau, en fait, ça permet aussi une phase de s'apprivoiser, lui et moi, ou elle. En fait, je lui donne le biberon et ensuite, donc, ils sont dans des petites niches, dans des petits box à l'abri, à l'extérieur. Où on s'occupe d'eux. Et ensuite, quand ils sont un peu plus dégourdis, on les met ensemble avec les copains dans une case collective. Et après, cette case-là, en fait, a un accès extérieur à un parc avec 3 fils. Donc là, il y a la petite appréhension du courant pour apprendre à ne pas traverser la barrière, le fil. Voilà, c'est ça. Donc, il y a la petite phase où ils apprennent. Et ça peut être ultra rapide. Hein. Au bout de 3-4 jours, ils peuvent être déjà avoir compris le système de barrière de fil. Et ensuite, après, j'ai aménagé des micro-paddocks, comme pour les vaches, mais sauf pour les veaux. Et ils font à peu près 1000 mètres carrés. Et donc les veaux sont lâchés dans la pâture et puis donc ils se dégourdissent les pattes. Ils ont accès à l'hangar comme ils le veulent, avec le foin et le lait qui est là à leur disposition. Et après, ils apprennent naturellement au fur et à mesure qu'ils grandissent à brouter l'herbe. Et puis après, par mimétisme entre eux, ils vont venir à brouter l'herbe. Et puis après, une fois qu'ils ont bien compris le truc, je les déplace, je leur change de paddock aussi, comme ça, comme pour les vaches. Et donc en même temps, ça leur apprend à être déplacés,
oui,
et à respecter le parcours. Voilà.
Mm-hmm. Et alors, du coup, la question qui me vient, c'est qu'est-ce que vous allez faire cet hiver, là? Plus de traite, alors bon.
Bah, y a de quoi faire, parce que du coup, tout ce que je mettais un peu en suspens pendant la phase de travail classique à la ferme, la traite et voilà, l'astreinte globale, là, ça va me permettre de faire des travaux que je ne pouvais pas faire dans ma salle de traite, du fait qu'il y ait tout le temps du passage de vaches. Donc là, on a bien démarré déjà avec mes gènes que j'ai à la ferme. On a cassé tout le béton et puis on est en train de refaire les quais de salle de traite. Et bon, ouais, on refait des aménagements, du coup, on s'occupe.
Sophie, c'est terminé le suivi ou il va y avoir encore un suivi quand même de...
Bah, y a un dernier article à faire la semaine prochaine.
Ah oui. Le bilan, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Bah, après, ça va être un petit article, donc ça va être assez rapide.
Mais... Et il y a d'autres éleveurs qui se sont montrés intéressés par ça?
Oui, pour l'année prochaine, on va fêter aussi les 10 ans. Et c'est vrai que c'est un de nos projets aussi de pouvoir faire une rétrospective et de voir ce que sont devenus tous ces paysans en fait, qu'on a suivis pendant près de 40 paysans sur toute la Bretagne. Ce serait un chouette projet qu'on puisse mener.
Autour du pâturage, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et l'autonomie.
Et même plus largement, nous, on en a par exemple qui ont transmis aussi. Donc voir en fait en quoi aussi les fermes herbagères, économes et autonomes en fait, aussi peuvent permettre l'installation.
Très bien. Ben, merci vraiment à
merci
tout le monde.
Merci à vous.
C'était passionnant. Et puis, on retrouve le CIVAM dans un mois, je crois.
C'est ça. Merci beaucoup.